BW. Vue d'Allemagne.
La CDU a un nouveau patron. Friedrich Merz a été élu à la tête du parti conservateur qui entame une nouvelle ère après Angela Merkel. Mais Friedrich Merz, qui avait commencé sa carrière sous Helmut Kohl, est-il vraiment l'homme du renouveau pour la CDU ? On décrypte cette élection avec Stefan Seidendorf de l'Institut franco-allemand. Et puis dans la deuxième partie de ce magazine, comme toujours, un reportage pour élargir notre horizon. On vous emmène en Grèce dans un lieu alternatif et solidaire dédié à l'accueil des réfugiés. C'est le Cap Nikos Stathmos, à 4 heures de route d'Athènes. Vous écoutez Vue d'Allemagne, Anne Letouzé au micro. Willkommen et bienvenue. Friedrich Merz a donc enfin réussi à prendre la tête de la CDU. Élu à près de 95% des voix lors du congrès du parti organisé en ligne le 22 janvier, le nouveau patron a versé quelques larmes à l'annonce de son élection, visiblement très ému. Il faut dire que c'était la troisième fois qu'il briguait ce poste, réputé pour être un tremplin vers la chancellerie. Les deux fois précédentes, en 2018 et 2021, Friedrich Merz avait dû s'incliner face à Annegret Kramp-Karrenbauer, dite AKK, puis Armin Laschet, deux favoris successifs d'Angela Merkel. Mais maintenant que la chancelière a pris officiellement sa retraite, la voie était donc libre pour un retour au premier plan d'une figure bien connue de la politique allemande. Car Friedrich Merz a commencé sa carrière politique en 1994 à l'âge de 39 ans. Élu député de la CDU sous Helmut Kohl donc, il était devenu chef du groupe parlementaire en 2000, alors que le pouvoir avait changé de camp puisque c'était le social-démocrate Gerhard Schröder qui dirigeait l'Allemagne alors avec ses alliés écologistes. Le chef de l'opposition caressait donc l'espoir de porter les couleurs de la CDU aux élections suivantes, mais Angela Merkel, devenue entre-temps chef de la CDU, l'a alors évincée de ce poste stratégique pour prétendre à la chancellerie, comme nous l'explique Stefan Seidendorf de l'Institut franco-allemand au début de cette interview.
C'est pas un échec aux élections, c'est une concurrence interne au sein du parti qui l'a obligé de quitter d'abord la présidence du groupe au Parlement. Ensuite, il a carrément lâché son mandat de député en 2009 et il a fait une belle carrière dans la finance, dans le privé. Il est devenu riche, selon ses propres mots. Et à la fin de l'époque Merkel, quand les signes se multipliaient, qu'elle perdait un peu la main sur le parti, elle faiblissait un peu, il a tenté par deux fois de revenir et de devenir président donc, du parti de CDU. Angela Merkel a su l'éviter deux fois. Une fois en faisant élire Annegret Kramp-Karrenbauer, la deuxième fois en imposant Armin Laschet à la tête du parti. Et là, c'est la troisième fois, Friedrich Merz a réussi à devenir le président, donc à 66 ans. Du CDU.
Alors, il a même été très largement élu, hein, avec 95% des voix. C'est quand même une sacrée revanche sur Merkel. Comment interpréter ? Est-ce que là, on tourne la page Merkel définitivement au niveau de la personnalité et aussi du programme ?
C'est en quelque sorte les militants du parti qui cherchent un nouveau départ avec ces 3-4 présidents en 5 ans, après Angela Merkel, Kramp-Karrenbauer, puis Laschet, puis Merz. C'est quelque chose de très inhabituel pour ce grand parti de CDU qui était toujours habitué à avoir des chanceliers, donc des présidents de parti qui restaient très longtemps, 10 ans, 15 ans, 20 ans, Angela Merkel de 2000 à 2018, et donc une certaine stabilité. Aucun des candidats proposés par Angela Merkel, ni Annegret Kramp-Karrenbauer, ni Armin Laschet, ont réussi vraiment à moderniser le parti et a donné en quelque sorte la garantie qu'on va bientôt à nouveau gagner des élections. Du coup, là, au troisième coup, c'est les bases, les militants de base, ils ont décidé pour Merz. C'est aussi la manière dont ça s'est passé qui est intéressant. Le CDU, normalement, était toujours un parti très bien organisé. Ce sont les fonctionnaires sur les différents niveaux qui élisent la présidence du parti et puis le président. Là, pour la première fois, on a vraiment fait en sorte de demander très largement les militants. Les statuts du parti ne prévoient pas une primaire, genre comme on a pu le voir en France pour les différents partis ou en Allemagne chez les sociaux-démocrates. Donc, en attendant de changer les statuts, les militants ont donné un mandat qui a été porté par ceux qui ont été représentés au Congrès et qu'ils ont largement tenu au vote des militants, ce qui explique ce bon score pour Friedrich Merz.
Au niveau maintenant du courant que représente Friedrich Merz, ou plutôt de la tendance à laquelle on peut s'attendre, vers quoi va la CDU maintenant avec Friedrich Merz? Parce qu'il a quand même évolué sur certaines questions par rapport à ses positions traditionnellement très très conservatrices. Mais quand même, son passage par aussi l'entreprise BlackRock, par les milieux des affaires, est-ce qu'on assiste à une droitisation et à une libéralisation de la CDU qui était plutôt centriste ces dernières années?
Difficile à prédire. De par sa personnalité, d'où il vient, il fait partie de l'aile économiquement libérale de la CDU avec sur les valeurs, les mœurs plutôt des valeurs conservateurs, sans être l'aile très à droite de la CDU comme on l'avait décrit. Maintenant qu'il se retrouve enfin à la tête du parti, il va être obligé de unir tout le CDU et il ne peut pas revenir 20 ans en arrière, évidemment. Un des succès d'Angela Merkel, c'était d'ouvrir la CDU vers le centre, vers les milieux urbains, vers les jeunes aussi, des milieux où traditionnellement le parti avait du mal à réussir. Merz ne va pas lâcher tout cela. Il a déjà surpris par des annonces programmatiques qui n'allaient pas dans un sens attendu, c'est-à-dire pas très, très à droite, pas très économiquement libéral. On va voir comment il se positionne. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait quelque temps qu'il avait milité pour une coalition avec les Verts. Ce n'est pas quelque chose qu'on associerait directement à Friedrich Merz et au courant qu'il représente. Donc, il est capable de changer. Il sent bien que l'époque n'est plus la même qu'à l'époque d'Helmut Kohl et de la CDU d'Helmut Kohl.
Donc vous croyez à la métamorphose de Friedrich Merz, mais qui est une métamorphose très pragmatique, si je comprends bien.
Je crois à sa capacité pragmatique de se positionner au milieu du parti, de unir autour de son personnage les différents courants du parti et de porter un message qui aura aussi une chance de garantir une élection prochaine. Et c'est là-dessus que ça va être très intéressant aussi comment il se positionne. Pour l'instant, il est juste, entre guillemets, président du parti. La prochaine étape va devoir pour lui de prendre la tête du groupe parlementaire.
Voilà, justement, je voulais revenir là-dessus. Est-ce que l'éviction envisagée de Brinkhaus pourrait aussi être en lien avec ce fait de vouloir tourner la page d'Angela Merkel?
Il y a la stratégie que Merz il va déployer. Il ne veut pas rester juste un président passager du parti. Il a toujours en tête des plans de carrière et pourquoi pas se présenter à 70 ans à la chancellerie. Si Merz, il veut devenir candidat à la chancellerie, il faut qu'il commence par mettre la main sur le parti et à écarter ce monsieur Brinkhaus, il s'appelle le président actuel du groupe au Parlement, pour lui-même reprendre ce poste qu'il a eu donc de 2000 à 2002. De 2000 à 2002, il a été président du groupe évincé par Angela Merkel par la suite. Et il fera la même manœuvre dans le sens inverse pour s'imposer à la tête du parti et du groupe parlementaire. Ce qui lui permettra ensuite, si ça réussit, de dire lors des prochaines élections, on y pense déjà, en 2025-2026, de se positionner comme candidat à la chancellerie.
Mais on a vu aussi avec Armin Laschet que ce n'était pas nécessaire d'être président du groupe parlementaire pour être candidat à la chancellerie. Est-ce que c'était une exception?
Disons ceci, explique cela. Une grande partie de mes aventures à la Hachette, l'explication pour ce malheureux candidat à la chancellerie, c'est qu'il n'était pas président du groupe. Il n'avait pas le soutien vraiment des poids lourds du parti et notamment pas des parlementaires à Berlin. Et pour un système parlementaire comme l'Allemagne, où ce sont les députés qui élisent en fin de compte le chancelier, vous avez besoin de ce soutien des parlementaires de votre propre groupe. Sinon, vous ne pouvez pas réussir. Et une des explications pour l'échec d'Armin Laschet, elle réside là-dedans.
Donc la prochaine étape, donc ça serait cette question du groupe parlementaire. Il y a aussi des élections régionales cette année en Sarre, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie notamment. Est-ce qu'il y a un électorat de la CDU qui correspond à Friedrich Merz en Allemagne à l'heure actuelle?
Ça va être le premier test pour lire quelque sorte. Ce que je vous ai décrit de devenir le chef du groupe au Bundestag et ensuite candidat à la chancellerie, c'est évidemment si tout va bien. Mais il y a aussi une autre possibilité, c'est que Merz, qui est quand même un peu un revenant, certains disent un has-been, quelqu'un qui ne représente plus aujourd'hui l'avenir du parti, peut-être il sera aussi un autre président de passage à la tête du CDU. S'il ne réussit pas à mettre la main sur le groupe parlementaire, s'il ne réussit pas ses premières épreuves aux urnes, qui seront cette année les élections régionales, il se peut que Friedrich Merz ne sera pas le président du renouveau de la CDU. Alors, une autre question, ça va être comment il peut se positionner vis-à-vis de la CSU, l'Union chrétienne sociale, c'est la branche la CDU en Bavière, qui n'existe qu'en Bavière, et qui dispose d'un ministre-président, Markus Söder, qui aurait aimé être lui-même candidat à la chancellerie, qui avait contesté la candidature de Armin Laschet et qui pensait, et qui pense jusqu'à aujourd'hui, qu'il aurait été le meilleur candidat. Il est relativement jeune, il est plein d'énergie. Lui-même, il se retrouve face à des élections régionales qu'il doit gagner à tout prix. Est-ce qu'il va se contenter de jouer, comme c'était le cas historiquement, le deuxième rôle au niveau national, laissant la candidature à la chancellerie à Merz, ou est-ce que le moment venu, il va jouer de sa jeunesse, de son énergie, de sa modernité par rapport à Merz pour lui contester cette candidature? Là, je pense qu'on n'est pas du tout encore au clair et que Markus Söder, il a pas dit son dernier mot.
C'était Stéphane Zeinendorf de l'Institut franco-allemand que nous remercions. Vous l'aurez compris, les prochains mois vont être intéressants à suivre pour voir si les conservateurs sont partis pour 4 ans ou plus à rester dans l'opposition. Le premier rendez-vous est en mars avec les élections en Sarre, puis ce sera en mai le Schleswig-Holstein et surtout la Rhénanie du Nord-Westphalie que les sociaux-démocrates aimeraient voir revenir dans leur giron après 5 ans de gouvernement conservateur. Allemagne, deuxième partie, chose promise, chose due, nous partons maintenant pour la Grèce, dans un endroit bien particulier. Une municipalité qui compte sur un centre alternatif pour approvisionner les hôpitaux, loger les sans-abri ou les réfugiés. Un camp de réfugiés totalement pris en charge en vue d'une réelle intégration. Eh bien, c'est le but d'un centre alternatif grec unique en son genre et tellement efficace que le gouvernement conservateur a donné son accord pour l'occupation des lieux pour les 25 ans à venir. Et c'est là que nous emmène Thomas Jacobi, notre correspondant en Grèce.
Des maisonnettes de marché de Noël, comme on en trouve en Allemagne, sagement alignées autour de la cour, des bâtiments propres sans tag, un gazon au milieu, tendu au millimètre, avec un arrosage rationnel, sans un seul petit papier par terre, aussi surprenant que cela puisse paraître, nous sommes en Grèce, à Katerini, à 4 heures de route d'Athènes, au nord du pays, au cap Nikostathmos, un ancien centre de recherche sur le tabac, devenu un lieu alternatif, solidaire, pas comme les autres. Ilias, un Grec vivant et travaillant en Allemagne la plupart du temps, à l'origine de ce projet, en parle avec passion.
La solidarité n'est pas à sens unique. On ne vient pas au Cap Nikos Stathmos que pour prendre, mais aussi pour donner. Quelqu'un n'a peut-être pas de quoi se nourrir. Il peut alors venir pour recevoir de la nourriture, mais en échange, il doit s'investir, participer aux travaux du centre. Tu as bien vu que le gazon était soigné et qu'il n'y a pas des saletés qui traînent. C'est parce que des gens entretiennent ce lieu qui est le leur. Chaque personne qui reçoit de l'aide choisit où elle peut travailler 8 heures par mois en fonction de ses possibilités et elle a droit à 35 kg de nourriture. C'est son salaire, pas une aumône.
Ici, depuis des années, les actions citoyennes se succèdent, les unes aux autres. Un groupe surveille le Mont Olympe pour stopper les départs de feu. Un autre collecte des couvertures pour les sans-abri. Un autre encore trie la nourriture stockée. Le système est simple. Chacun, chacune, propose son projet en assemblée générale. S'il est adopté, il ou elle le propose par mail aux milliers d'inscrits sur les listes du site et le mènera à terme sous son entière responsabilité. Maria Marakou a choisi d'apprendre le grec aux petits réfugiés.
Le grec n'est pas une langue facile. Pourtant, les petits absorbent tout comme des éponges. Et ils ont déjà un très bon niveau de connaissance. Ils adorent ça. Ils aiment même l'orthographe, ce qui est surprenant chez des petits.
Le mot d'ordre est, comme toujours, l'intégration.
L'intégration est essentielle à l'école, d'abord avec les enfants grecs, puis dans la société. Les enfants ont le rôle d'interprète avec leurs parents qui n'ont pas le même niveau qu'eux. C'est pareil ici, ils étaient toujours le relais entre eux et nous.
Aujourd'hui, à part avoir appris les saisons, les enfants vont s'essayer à faire des truffes au chocolat. Chemin faisant vers la cuisine, Nassim, petit enfant afghan, tente de nous expliquer l'âge qu'il a. Mais cela reste un peu confus dans sa petite tête.
J'ai été bébé quand nous avons quitté le pays. Puis c'était l'Irak, j'avais 4 ans. Puis on est venu ici, j'avais 5 ans. Mais maintenant j'en ai 8.
Outre une bibliothèque pour enfants, un théâtre et un lieu de projection, le point culminant de ce centre est la pharmacie, où Grecs et migrants viennent demander de l'aide. Qui une crème, qui des cachets pour la tension.
Cela fait des années que je viens ici. J'ai un cancer et pas de travail. Je ne tiendrai pas sans eux. Ils me donnent mon traitement.
Le moindre espace est occupé. Derrière le bâtiment de cuisine se trouve le jardin et le poulailler. C'est le domaine de Barbara, géorgienne, une ancienne femme battue sans domicile fixe, devenue la cuisinière en chef du camp. Et nous explique en riant ses recettes.
Je fais du tourlou. Avec de l'origan, du poivre, je mets de tout. C'est une recette de chez nous. Je fais aussi du imam baïldi avec des aubergines. C'est bon.
Si l'intégration des réfugiés et la cohabitation réussissent entre migrants et grecs, c'est que c'est au centre des préoccupations. Il y a des règles au Cap Nikostathmos. Elles peuvent paraître rudes, mais elles font partie de la réussite du lieu.
On avait commencé une distribution de nourriture et Giorgos, un volontaire, voit quelqu'un devant le centre jeter 3 kg de riz à la poubelle. Il lui demande s'il était périmé et l'homme lui répond « Non, nous ne mangeons pas de riz chez nous ». Alors Giorgos lui a pris des mains les sacs de nourriture et lui a dit « S'il te plaît, ne reviens plus ici. Tu n'as pas compris ce que nous faisons ici. Tu n'as pas pensé un instant à donner ces 3 kg de riz à quelqu'un d'autre, ton voisin. Cette attitude n'a pas sa place chez nous. Ça sonne peut-être dur, mais c'est ainsi. »
Autre succès dans la durée de ce lieu, la totale transparence de ses finances, mise sur Internet. Tout le monde sait qui donne quoi, où va le moindre sou, où le moindre kilo de lentilles. De plus, les donateurs payent directement les travaux aux entreprises de leur choix. Une monnaie locale vient d'être créée pour pallier à toute dérive. Dans un pays où la corruption règne à tous les niveaux, c'est vraiment ce qui fait la différence.
Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine avec Hugo Flotatalon pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss !